Bonjour à tous, bienvenue dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur tous les mercredis à 22h30. Pendant une demi-heure, c'est lecture sur Canal B. Vous avez bien entendu, c'est lecture. Pas question de parler littérature, ici on laisse plutôt parler la littérature comme une grande. On va lire des livres, tourner des pages, bref, on va vibrer au rythme des belles formules. Et pour vous conduire dans cette expédition littéraire hebdomadaire, un lecteur modeste, votre serviteur du soir, Edgar, pour vos beaux yeux, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous parle d'un nom propre qui s'est transformé en adjectif. Un auteur entré dans le langage courant. Peut-être l'avez-vous déjà reconnu. Que pourrais-je dire d'autre ? Il est né en 1983 à Prague. Son œuvre a changé la littérature, peut-être même une partie du XXe siècle. Écrivain de l'absurde, de l'oppression, il est connu notamment pour ses romans « Le procès », « Le château » ou encore « L'Amérique ». Évidemment, je vous parle de Franz Kafka. Pour autant, ce n'est pas un roman que j'ai choisi de vous lire, mais bien une de ses nouvelles, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la Métamorphose. Publiée en 1915, cette longue nouvelle de 177 pages décrit la métamorphose puis les mésaventures de Gregor Samsa, un représentant de commerce qui se réveille un matin transformé en insecte. De cette situation absurde, Kafka interroge des thématiques aussi variées que la solidarité familiale, la solitude, le déclassement ou la mort. Si la métamorphose est le récit de la déshumanisation de Gregor, cette grande fable est surtout l'occasion d'évoquer la déshumanisation des êtres humains en général. Lecture du jour, je commence au début du roman. Impossible effectivement de passer à côté des phrases cultes qui lancent l'intrigue. Bonne écoute à tous. Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse, et en levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte divisée par des nervures arquées. La couverture, à peine retenue par le sommet de cet édifice, était près de tomber complètement et les pattes de Grégoire, pitoyablement minces pour son gros corps, papillotaient devant ses yeux. « Que m'est-il arrivé ? » pensa-t-il. Ce n'était pourtant pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre d'homme, quoique un peu petite à vrai dire, se tenait bien sage entre ses quatre murs habituels. Au-dessus de la table où s'étalait sa collection d'échantillons de tissus, Grégoire était voyageur de commerce. On pouvait toujours voir la gravure qu'il avait découpée récemment dans un magazine et entourée d'un joli cadre doré. Cette image représentait une dame assise bien droit, avec une toque et un tour de cou en fourrure. Elle offrait au regard des amateurs un lourd manchon dans lequel son bras s'engouffrait juste au coude. Grégoire regarda par la fenêtre. On entendait des gouttes de pluie sur le zinc. Ce temps brouillé le rendit tout mélancolique. « Si je me rendormais encore un peu pour oublier toutes ces bêtises, » pensa-t-il. Mais c'était absolument impossible. Il avait l'habitude de dormir sur le côté droit et ne pouvait parvenir dans sa situation présente à adopter la position voulue. Il avait beau essayer de se jeter violemment sur le flanc, il revenait toujours sur le dos avec un petit mouvement de balançoire. Il essaya bien 100 fois en fermant les yeux pour ne pas voir les vibrations de ses jambes et n'abandonna la partie qu'en ressentant au côté une sorte de douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. « Quel métier » pensa-t-il. « Quel métier suis-je allé choisir ? Tous les jours en voyage, des ennuis pires que dans le commerce de mes parents. » Et par-dessus le marché, cette plaie des voyages, les changements de train, les correspondances qu'on rate, les mauvais repas qu'il faut prendre n'importe quand, à chaque instant des têtes nouvelles, des gens qu'on ne reverra jamais, avec lesquels il n'y a pas moyen d'être camarade, que le diable emporte la boîte. Il sentit une petite démangeaison en haut du ventre. S'approcha un peu plus du bois de lit en se traînant lentement sur le dos pour pouvoir mieux lever la tête et s'aperçut à l'endroit qui le démangeait toute une série de petits points blancs auxquels il ne comprit rien. Il essaya de tâter l'endroit avec une de ses pattes, mais il dut la retirer bien vite car ce contact lui donnait des frissons glacés. Il reprit sa position première. « Il n'y a rien d'aussi abrutissant, pensa-t-il, que de se lever toujours si tôt. L'homme a besoin de son sommeil, et dire qu'il y a des voyageurs qui vivent comme des femmes de harem. Quand je retourne à l'hôtel, l'après-midi, pour noter les commandes, je trouve ces messieurs qui n'en sont encore qu'à leur petit déjeuner. Je voudrais voir ce que dirait mon chef si j'essayais chose pareille. Je serais congédié immédiatement. Qui sait d'ailleurs si ce ne serait pas une bonne affaire ? Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, il y a longtemps que j'aurais donné ma démission, je serais allé trouver le patron et je lui aurais pas mâché les choses. Il en serait tombé de son bureau, voilà encore de drôles de manières, s'asseoir sur le bureau pour parler aux employés du haut d'un trône, surtout quand on est dur d'oreille et qu'il faut que les gens s'approchent tout près. Enfin, tout espoir n'est pas perdu, une fois que j'aurai réuni la somme que mes parents lui doivent, cela demandera bien encore 5 ou 6 ans, je ferai certainement le coup. Et alors, un point, on tourne la page. En attendant, je dois me lever pour le train de 5 heures. Il regarda le réveil qui tic-taquait sur le coffre. Dieu du ciel, pensa-t-il. Il était 6h30 et les aiguilles continuaient d'avancer tranquillement. La demie était même passée, 6h15 n'était pas loin. Le réveil n'avait donc-t-il pas sonné ? On pouvait pourtant voir que la petite aiguille était bien placée sur 4 heures. Le réveil avait bien sonné, mais alors Grégoire avait pu dormir tranquille malgré ce carillon à fracasser les meubles ? Tranquille, non. Son sommeil n'avait pas été tranquille. Mais il n'en avait pas dormi que plus fort. Oui, mais maintenant. Le premier train partait à 7 heures. Pour l'avoir encore, il eut fallu se presser comme un fou, et puis la collection d'échantillons n'était pas empaquetée. Enfin, en ce qui le concernait lui-même, Grégoire ne se sentait pas remarquablement dispo. Et puis, même s'il avait attrapé le train, la colère du patron était inévitable, puisque le garçon de course avait attendu Grégoire au train de 5 heures et prévenu déjà la maison de son oubli. C'était une créature du patron, un individu servile et bête. Alors, et s'il se faisait porter malade ? Mais c'était fort ennuyeux et cela semblerait suspect car depuis 5 ans qu'il était dans la maison, Grégoire n'avait jamais eu la moindre indisposition. Le patron viendrait avec le médecin des assurances, il reprocherait aux parents la fainéantise de leur fils et couperait court à toute objection en arguant des affirmations du médecin pour lequel il n'y avait jamais de malade mais seulement des paresseux. Se tromperait-il d'ailleurs tellement en l'occurrence ? Grégoire se sentait parfaitement en forme, n'eût été ce besoin de dormir vraiment superflu après une si longue nuit. Il y avait même un appétit singulier. De retour dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur, tous les mercredis à 22h30 sur Canal B, 94 MHz. Vous venez d'écouter la musique de Kafka de Damien Riba. Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre la lecture de la Métamorphose de Franz Kafka. Comme il venait de retourner rapidement ses pensées dans sa tête sans pouvoir se décider à quitter le lit, il entendit frapper à la porte, à côté de son chevet, tandis que le réveil sonnait les trois quarts d'heure. « Grégoire » appelait-on. C'était sa mère. « Il est 7h moins le quart. Est-ce que tu ne voulais pas prendre le train ?» La douce voix. Grégoire frémit en s'entendant répondre. On reconnaissait bien son organe, il n'y avait pas à s'y méprendre, c'était bien lui qui parlait, mais il se mêlait à sa voix un piaulement douloureux, impossible à réprimer, qui semblait sortir du tréfonds de son être et qui ne laissait aux mots leur vraie figure que dans le premier instant pour brouiller ensuite leur résonance, au point qu'on se demandait si l'on avait bien entendu. Grégoire aurait voulu détailler sa réponse, mais dans ces conditions, il se contenta de dire « Si, si, merci maman, je me lève !» Sans doute la porte empêchait-elle de juger du changement survenu dans la voix de Grégoire, car l'explication rassura la mère qui s'éloigna en traînant ses pantoufles. Mais cette petite conversation avait fait remarquer aux autres membres de la famille que Grégoire, contre toute attente, se trouvait encore au lit. Et le père s'était mis à frapper à la porte latérale, doucement, mais avec le poing. « Grégoire, Grégoire » criait-il. « Qu'y a-t-il donc ?» Et, au bout d'un moment, à l'autre bout de la porte latérale, la sœur du jeune homme gémissait doucement. « Grégoire, es-tu malade ? As-tu besoin de quelque chose ?» « Je suis prêt !» répondit des deux côtés Grégoire en s'efforçant d'articuler distinctement et de séparer largement les mots pour rendre sa voix naturelle. Le père retourna déjeuner, mais la sœur chuchota encore. « Grégoire, ouvre-moi, je t'en supplie !» Grégoire n'eut garde de se rendre à cette invitation. Il se félicitait au contraire d'avoir conservé chez lui l'habitude de fermer toujours les portes comme à l'hôtel. Il allait d'abord se lever tranquillement sans être gêné par personne, s'habiller et surtout déjeuner. Ensuite, il serait temps de réfléchir, ce n'était pas au lit, il le sentait bien, qu'il pourrait trouver une solution raisonnable du problème. Il n'est pas rare d'éprouver à la suite d'une fausse position de ces petits malaises qui disparaissent dès qu'on se lève, et Grégoire était curieux de voir se dissiper petit à petit son hallucination présente. Quant au changement de sa voix, c'était, selon sa conviction intime, le prélude de quelque chose de froid, la maladie professionnelle des voyageurs. Il n'eut aucun mal à rejeter la couverture. Il se gonfla un peu et elle tomba d'elle-même. Mais ensuite, Grégoire fut gêné par sa carrure formidable. Pour se lever, il y aurait fallu des bras et des jambes et il ne possédait que de petites pattes en vibration continuelle sur lesquelles il n'avait aucun moyen d'activation. Avant d'en pouvoir plier une, il lui fallait d'abord s'étirer et quand il arrivait à exécuter le mouvement voulu, toutes les autres se déchaînaient sans contrôle. « Ne restons pas inutilement au lit », se dit-il. Pour en sortir, il essaya d'abord de commencer par l'arrière-train. Malheureusement, cet arrière-train, qu'il n'avait pas encore vu et dont il ne se faisait pas une idée précise, se révéla à l'expérience très difficile à mouvoir. La lenteur du procédé l'exaspéra. Il réunit toutes ses forces pour se jeter en avant, mais ayant mal calculé sa trajectoire, il se heurta violemment contre l'un des montants du lit et la cuisante douleur qu'il en ressentit lui apprit que la partie inférieure de son corps était sans doute la plus sensible. Il voulut donc, changeant de tactique, commencer par le haut du corps et tourna prudemment la tête vers le haut du lit. Il y réussit sans peine et le reste de sa masse, malgré son poids et son volume, finit par suivre et s'orienter du même côté. Mais quand la tête fut sortie et qu'elle pendit dans le vide, Grégoire eut peur de continuer. S'il tombait dans cette position, il se briserait le crâne à moins d'un miracle et ce n'était pas le moment de perdre ses moyens. Mieux valait rester au lit. Pourtant, lorsque, poussant un soupir après tant de peine, il se retrouva étendu comme auparavant lorsqu'il vit ses petites pattes se livrer bataille avec plus d'acharnement que jamais, désespérant de trouver aucun moyen de restaurer la paix et l'ordre dans cette société despotique, il commença à croire qu'il ne pouvait absolument pas rester au lit et qu'il fallait raisonnablement tout sacrifier à la plus petite chance de sortir de là. Il ne se rappelait pas moins que les résolutions désespérées ne valent pas la réflexion froide et sage. D'ordinaire, dans ces moments-là, il concentrait ses regards sur la fenêtre pour en tirer des encouragements et des motifs d'espoir. Mais ce jour-là, la rue n'avait rien à lui dire. Le brouillard n'annonçait rien de bon. 7 heures, pensa-t-il. Déjà 7 heures et le brouillard n'a pas diminué. Il se recoucha un moment pour ménager sa respiration et ses forces, comme s'il attendait du calme complet le retour de la vie normale. De retour dans Contact, vous êtes toujours sur Canal B et vous faites bien. Vous venez d'écouter Clair de lune de Claude Debussy. C'est parti pour la 3e et dernière lecture du jour, toujours dans les pas, ou plutôt dans les pattes, de Grégoire Samsa. Quand il eut une moitié du corps hors du lit, avec la nouvelle méthode, c'était plutôt un jeu qu'une corvée, il n'y avait qu'à se balancer par secousse. Il se mit à penser à la facilité avec laquelle il aurait pu se lever s'il avait eu un peu d'aide. De personnes fortes comme son père, et la bonne aurait amplement suffi. Il n'aurait eu qu'à passer les bras sous son dos rond, le dégager du lit, s'incliner ensuite avec leur fardeau et puis attendre prudemment qu'il eût fini d'opérer son rétablissement sur le sol où il fallait espérer que ses pattes trouveraient enfin leur raison d'être. Mais, même si les portes n'avaient pas encore été fermées, aurait-il vraiment bien fait d'appeler à l'aide ? À cette idée, malgré tout son malheur, il ne put réprimer un sourire. L'opération était déjà si avancée qu'en accentuant son mouvement d'escarpolette, il se sentait presque perdre l'équilibre. Il lui fallait prendre une décision définitive, car il ne disposait plus que de 5 minutes avant l'écoulement du quart d'heure fatidique, mais soudain il entendit sonner. « Quelqu'un est venu du magasin », se dit-il, et il sentit son sang se figer tandis que ses petites pattes accéléraient leur sarabande. Il n'entendit rien d'un instant et pensa dans une lueur d'espoir absurde que personne n'allait ouvrir. Mais la bonne, comme toujours, se dirigea d'un pas ferme vers la porte. Le premier mot du visiteur suffit à Grégoire pour l'identifier. C'était le gérant lui-même. Pourquoi fallait-il que Grégoire fût condamné à servir dans une maison où l'on soupçonnait toujours le pire à la moindre inadvertance du personnel? Ses employés étaient-ils donc tous des fripouilles sans exception? Ne se trouvait-il dans leur nombre aucun de ces serviteurs dévoués et fidèles qui, s'il leur arrive par hasard de s'oublier une ou deux heures le matin, se trouvent si malades de remords qu'ils n'eût peuvent quitter le lit? N'aurait-il vraiment pas suffi d'envoyer au renseignement un apprenti quelconque, si toutefois un pareil interrogatoire était nécessaire, au lieu de déranger immédiatement le régent, le gérant, comme pour montrer à toute la famille, qui n'en pouvait, mais que l'éclaircissement d'une affaire aussi suspecte ne pouvait être confié qu'à l'intelligence du grand Manitou? Ces réflexions irritèrent tellement Grégoire qu'il se jeta de toute sa force hors du lit. Ce fut moins le résultat d'une détermination véritable que de son irritation. Il en résulta un choc bruyant, mais non le vacarme redouté. Le tapis ayant amorti la chute et le dos du jeune homme étant plus élastique qu'il ne l'avait d'abord pensé, le bruit sourd ne s'était pas accompagné d'aucun grabuge. La tête seule avait souffert, Grégoire ne l'ayant pas relevé suffisamment, se l'était cogné dans sa chute, il dut la tourner un peu pour la frotter sur le tapis de douleur et de colère. « Il y a quelque chose qui vient de tomber, » dit le gérant dans la pièce de gauche. Grégoire se demanda si un jour il ne pourrait pas arriver quelque malheur du même genre à cet homme. Après tout, rien ne s'y opposait. Mais comme une réponse brutale, on entendit des pas, des souliers qui craquaient. Et dans la pièce de droite, la sœur avertissait. « Grégoire !» chuchotait-elle. « Le gérant est venu !» « Je sais, » dit Grégoire, mais il n'osa parler si fort que sa sœur parvint à l'entendre. « Grégoire, » disait maintenant le père dans la pièce de gauche, « Monsieur le gérant vient demander pourquoi tu n'es pas parti au premier train. »« Nous ne savons que lui répondre. D'ailleurs, il veut te parler personnellement. »« Allons, fais-nous le plaisir d'ouvrir la porte. Il aura la bonté d'excuser le désordre de ta chambre. » On entendit le gérant l'interrompre en criant « Bonjour, monsieur Samsa !»« Il est malade, » lui dit la mère, tandis que le père poursuivait son discours. « Il est malade, croyez-moi, monsieur le gérant. Comment aurait-il pu manquer le train sans cela? Ce garçon n'a que son commerce dans la tête. Je me fais même du mauvais sang à voir qu'il ne sort jamais après souper. Croiriez-vous qu'il vient de passer 8 jours ici et qu'il est resté tous les soirs à la maison ?» Il s'installe devant la table et il reste là, sans rien dire, à lire le journal ou à étudier ses indicateurs. Sa plus grande débauche, c'est de fabriquer des babioles avec sa scie à découper. Dernièrement, il a même travaillé à un petit cadre. En 2-3 séances, c'était fini et joli comme tout. Vous verrez ça dans sa chambre, vous en serez étonné. J'arrive, articula Grégoire avec une lenteur circonspecte. Mais il continua de faire le mort pour ne pas perdre un mot de la conversation. « Je ne puis en effet, madame, m'expliquer la chose autrement, » déclara le gérant. « Espérons que ce ne sera rien de grave. Cependant, il me faut dire que nous autres, commerçants, devons souvent, par bonheur ou par malheur, comme vous voudrez, faire passer les affaires devant nos petits malaises. » Eh bien, monsieur le gérant peut-il entrer maintenant ? Demanda le père impatienté en frappant de nouveau à la porte. Non, dit Grégoire. À gauche, il y eut un silence pénible. À droite, la sœur se mit à sangloter. Pourquoi n'allait-elle pas rejoindre les autres ? Sans doute venait-elle seulement de se lever et n'était-elle pas encore vêtue ? Et pourquoi donc pleurait-elle ? Parce qu'il ne se levait pas pour faire entrer le gérant, qu'il risquait de perdre son poste et que le patron recommencerait à accabler ses parents des mêmes réclamations qu'autrefois. Souci vraiment déplacé. Grégoire était encore là et ne pensait pas le moins du monde à abandonner sa famille. En cet instant, évidemment, il gisait sur un tapis et personne, en le voyant dans cet état, n'aurait pu exiger sérieusement qu'il fît entrer le gérant dans sa chambre. La lecture est terminée pour aujourd'hui. Si ces quelques pages vous ont plu, La Métamorphose de Franz Kafka est éditée par la maison d'édition Gallimard dans sa collection des livres de poche Folio. Merci pour votre attention. L'émission est à réécouter comme d'habitude en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et bonne lecture.